enthousiasme, on supporte pas qu'on le regarde, il faut dans les yeux, ou que l'autre se soit agressé dès qu'on le regarde, pourquoi tu me regardes, etc. Vous voyez, c'est un peu ce type-là. Et j'ai senti qu'il y avait comme une espèce d'essence de sécurité autour d'eux, qui était liée à la fois à l'espace physique autour d'eux, et liée au regard. C'est-à-dire que quand on était trop proche physiquement d'eux, et qu'on les regardait, ils devenaient comme une agression. Et donc du coup, c'est problématique, parce que l'enseignante me dit, oui, mais attends, si je les mets en travail individuel, ils seront plus calmes. Ce sont des élèves qui ont des troubles du comportement, donc mon enjeu premier, c'est de les socialiser. Donc si je les mets qu'en travail individuel, voilà, face à moi, etc., je risque, certes, d'avoir du calme, mais d'aller dans le sens de leur pathologie, quelque part. Donc qu'est-ce que je fais avec ça? Donc du coup, on a réfléchi à ça, et on s'est dit que peut-être une approche intéressante, ce serait d'avoir une approche très symbolique au niveau socialisation, mais très cadrée au niveau physique. C'est-à-dire qu'on a laissé tomber durablement avec ce groupe le travail en groupe avec les tables, okay, et on a essayé par étape de les amener à se supporter les uns les autres. Alors la première étape, ça a été le regard. Le regard. Alors évidemment, ils n'étaient pas autistes, hein. Donc ce que je vais dire là pour le regard, ce ne serait pas valable pour l'URIAS, hein, parce que l'URIAS, il faut respecter bien sûr le fait qu'on ne le regarde pas dans les yeux, et puis là c'est un besoin qui peut être dit aux autres, hein. Même pas qu'on le regarde dans les yeux, ça l'angoisse, ça le perturbe. Mais pour les autres, l'idée c'était en fait de remettre les tables face au tableau, et les tables vraiment, vous voyez, de quinconce, quoi. Il n'y avait pas deux tables l'une à côté de l'autre, hein. Ils n'étaient pas assis l'un à côté de l'autre. Les tables étaient espacées en plus dans la classe, le plus espacées possible. Et en fait, dans cet espace-là, ils étaient face à nous on était au tableau, vous voyez, c'est très frontal comme ça d'apparence. Et notre premier rôle, ça a été de leur demander de se regarder quand ils parlaient, quand ils donnaient des réponses intéressantes. Par exemple, un élève, à un moment donné, ils avaient 10-12 ans, un élève qui vient dire que, c'est le seul groupe qui l'a dit, qu'un carré est un rectangle particulier. Donc nous, on s'exclame, etc. Ah oui, très intéressant, tu peux le redire au groupe, expliquer pourquoi, et on demande aux autres de le regarder quand ils parlent. Donc on fait ça sur toutes les séances, les premières séances. Une fois que les élèves ont accepté de se regarder, et de verbaliser non pas seulement à l'enseignant, mais aux autres, quelque chose qui leur paraissait intéressant ou important, à ce moment-là, on a fait passer deux tableaux ensemble. Et, en fait, non, c'est pas tout à fait ça, excusez-moi. On n'en faisait pas simplement passer un au tableau, faire quelque chose, et quand, s'il le souhaitait, s'il avait besoin d'aide, il pouvait appeler un camarade, mais qui avait vraiment un rôle de second. Le rôle était différent. Donc, voilà, il se passe encore un peu de temps pour faire admettre le dispositif. Une fois qu'on est capable de les faire se regarder et de faire en sorte qu'ils soient à deux au tableau sans s'entretuer, on passe à un deuxième niveau du passage au tableau où ils viennent carrément à deux au tableau. Et ils doivent s'entraider. Par exemple, ils sont venus à deux au tableau pour tracer une droite perpendiculaire à une autre avec une règle et une équerre. Ils étaient à deux pour faire la manipulation. Okay, des choses comme ça. Donc avec nous, un discours du type à deux, vous aiderez mieux, vous serez plus précis, plus efficace, il y a beaucoup d'outils, voilà. Donc on justifiait ça. Et une fois qu'ils ont été capables d'interagir par les yeux, d'interagir à deux au tableau avec un responsable et l'autre subalterne, si je puis dire, d'interagir à deux au tableau avec le même rôle, là, on les a mis à interagir par petits groupes, à deux ou trois. Et là, on était en juin. D'accord? Là, on était en juin. On ITEP, hein, mais on était en juin. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, dans notre enseignement, on est pris dans ce que l'école de Palo Alto appelle des injonctions paradoxales. L'injonction paradoxale, c'est une situation où quoi que vous faites, vous avez tort. Vous voyez? Si vous arrêtez de créer du groupe, vous avez tort. Mais si vous créez des situations de travail de groupe, c'est l'explosion, donc vous avez tort aussi. Vous voyez, ça, l'injonction paradoxale, c'est quoi qu'on fasse, on a tort. Et ce que nous dit l'école de Palo Alto, c'est que quand on vit une injonction paradoxale, il ne faut jamais choisir entre les deux solutions. Il faut en trouver une troisième qui sort du système. Que finalement, cette dualité, vous voyez, solution l'une, solution 1 ou solution 2, ben, elle nous frustre, hein, parce que qu'on choisisse l'une ou l'autre, ça ne nous convient pas. C'est précisément le principe de la notion paradoxale. Et que donc, il faut en trouver une troisième. Et là, ça a été le cas. C'est-à-dire que quand elle m'a dit en début d'année, oui, mais si on les met en groupe, ça explose. Si je ne les mets pas en groupe, je ne réponds pas à leurs besoins de socialisation. Eh bien, en fait, on s'est débrouillé pour répondre à leurs besoins de socialisation, mais pas en les mettant en groupe tout de suite. Vous voyez, en passant par des socialisations progressives, on va dire. Donc il peut exister une solution, mais généralement en sortant de l'enfermement dans lequel la situation nous met. Et si on voit, si on voit un petit peu ce qui se passe en classe avec ce type d'élèves, eh bien, on se rend compte que... on se rend compte, alors que ce soit, je ne vais pas reprendre tous les prénoms, hein, mais on se rend compte que très souvent, les interactions qu'on essaye de créer, parce que justement c'est important d'en mettre en place en classe, peuvent être des sources d'angoisse. J'en parle en aparté tout à l'heure, rapidement. Parfois, en classe, on met en place des situations de tri, vous savez, des situations de tri, etc., des choses comme ça. Un élève autiste, s'il a toutes les étiquettes devant lui et qu'ils ne sont pas dans des contenants, vous voyez, par exemple, tu mets dans cette barquette, les étiquettes sont dans d'autres barquettes ou quoi, c'est très angoissant pour lui, vous voyez. Il faut imaginer l'espace physique pour ce type d'élève, et même pour les élèves qui ont du comportement, comme un grand contenant avec plein de petits contenants. Plus l'espace stable est structuré dans les activités, vous voyez, plus il y a des contenants sur la table, etc., plus c'est... Sans que ce soit un conditionnement, là, pour le coup, hein. Enfin, on peut rentrer dans des choses trop carrées, où l'élève est une espèce d'exécutant, quoi, hein. C'est pas ça du tout, hein. Mais la question du contenant physique, elle peut être...